France Musique. Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, je suis heureux d'accueillir Christian Haas, qui a joué sur toutes les scènes d'opérette depuis 1954. Et pendant plus d'un demi-siècle, il est sans doute le dernier à connaître chacun des rôles de fantaisiste qui ont fait sa réputation. Et il a bien voulu sortir de sa retraite pour évoquer avec nous quelques souvenirs. Christian Haas à mes côtés dans un instant. En fin d'émission, une petite archive d'Arthur Honegger. Mais avant toute chose, ça m'a beaucoup perturbé. Je vous prie d'écouter les plaintes et revendications d'un nouveau-né.
Je n'étais pas plutôt arrivé qu'ils étaient là, fais-moi risette. Comment voulez-vous que je tête sans calme et sans tranquillité, qui se contente de me donner mon biberon à heure fixée pour mélange, qui n'oublie surtout pas de me changer, les couches propres sont plus douces au toucher. Il s'obstine à me parler baragouin. Comment voulez-vous que je comprenne? C'est tout de même pas 3 semaines que je pourrais leur répondre en latin. Qui se contente de me donner mon biberon à heure fixée pour mélange, qui n'oublie surtout pas de me changer, les couches propres sont plus douces au toucher. Quant à ce qu'ils ont cru bon comme manière de me vêtir, je voudrais bien les voir courir, fagoter de telle façon, qui se contente de me donner mon biberon à heure fixée pour mélange, qui n'oublie surtout pas de me changer, les couches propres sont plus douces au toucher. Le plus sale moment à passer, les visites, vous êtes sur la brèche avec tous ces gens qui vous lèchent, sans même prendre la peine de vous essuyer, qui se contentent de me donner mon biberon à heure fixée pour mélange, qui n'oublie surtout pas de me changer, les couches propres sont plus douces au toucher.
Merveilleuse chanson de Stéphane Goldman en 1954. Stéphane Goldman qui a été un des pionniers de la chanson Rive Gauche avec sa guitare et auquel j'espère bien un de ces jours consacrer une émission complète. Et puis avant de retrouver mon invité, puisque nous sommes avec les bébés furieux ou pas contents, avant de retrouver mon invité, cette chanson qui elle date d'avant-guerre 1933, c'est Bill et Jim, Je ne veux pas aller au lit.
Malbrousse s'en va en guerre, mirotant sans son mirotaine. Malbrousse s'en va en guerre. Sur le pont d'Avignon, on y danse, sur le pont d'Avignon, on y danse.
Lodo, l'enfant d'eau, l'enfant dormira bientôt.
Je ne veux pas aller au lit.
Je ne veux pas aller au lit.
Non.
Si.
Non.
Si.
Je ne veux pas aller au lit.
Papa, pas là. Je ne veux pas aller au lit. Je ne veux pas aller au lit.
Non.
Si.
Non.
Si.
Je ne veux pas aller au lit.
Papa t'aura beau faire et beau dire, tu ne pourras pas m'empêcher de sortir. D'abord, le sommeil est dur.
Et je me cogne le nez au mur.
Non.
Si.
Non.
Si.
Je ne veux pas aller au lit.
Mon petit père, sois bien mignon.
Non, non, non.
Ou je réveille toute la maison.
Non, non, non.
Tout le monde sera au balcon.
Toutes les petites filles et les garçons
hurleront comme des pitois. Tant pis pour toi.
Il faut dormir.
Je veux sortir.
Ça va te punir.
Tu ne veux pas U. Tu ne veux pas D. Tu ne veux pas 3.
Je ne veux pas aller au lit.
Je ne veux pas aller au lit.
Non.
Si.
Non.
Si.
Je ne veux pas aller au lit. Papa, papa, je ne veux pas aller au lit.
Je ne veux pas aller au lit.
Non.
Si.
Non. Si. Je ne veux pas aller au lit.
Papa, je réveillerai la voisine et je vais tout briser dans la cuisine.
Et puis en voilà assez.
Ah.
Et tu vas être fessé.
Ah non.
Si.
Non.
Si.
Je ne veux pas aller au lit. Je veux bien aller au lit. Je veux bien aller au lit.
Si, 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 si. Je veux bien aller au lit. Pa, 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 la, je veux bien aller au lit. Je veux bien aller au lit. Si, 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 si. Je veux bien aller au lit.
Je ne veux pas aller au lit en mars 1933, le duo Bill et Jim dans cette chanson de Jean Tranchant. En fait, le tout jeune Jean Tranchant, ce grand auteur, compositeur, interprète, c'est l'un des deux duettistes Bill et Jim qui ont fait une petite carrière en comparaison de Pils et Abbé, puisque Tranchant a bientôt pris son autonomie. Mais voilà encore donc un petit trésor de la chanson ou de la fausse chanson pour les enfants. Le pas espagnol qui conclut la célèbre suite Dolly de Fauré, enfin célèbre dans sa version pour piano à quatre mains, beaucoup moins connue dans cette version symphonique ici enregistrée par le grand Sir Thomas Beecham avec l'Orchestre Royal Philharmonique.
Benoît Dutertre, Étonnez-moi Benoît, France Musique.
Mais sans plus attendre, nous retrouvons mon invité, un invité qui va nous ramener au temps pas si lointain auquel, chaque soir en France, on pouvait assister à des dizaines de représentations d'opérettes dans beaucoup de théâtres. Il y en avait dans toutes les villes. On pouvait faire des carrières entières dans l'opérette. Et ça a été d'ailleurs son cas depuis les années 50 jusqu'à une époque passée l'an 2000 où il est devenu metteur en scène pour terminer donc ce brillant itinéraire qu'il va évoquer avec nous aujourd'hui, le dernier âge d'or de l'opérette avec Christian Haas.
Ton cerveau est gros comme un petit pois.
Un petit pois s'étendre quelquefois.
T'as l'élégance d'un épouvantail.
Pour moi, le chic, ce n'est qu'un détail.
Toujours en toi un cochon sommeil.
Dès que tu parais, ça le réveille.
T'es malin comme un gros sac de noix.
C'est bon, les noix dans les bois.
Tu es prétentieux comme un vieux coq.
Un coq, ça n'est pas coq.
T'as l'œil intelligent d'un poisson
qui mord à ton hameçon.
Tu es gracieux comme un hérisson.
Pour plaire, c'est ma façon.
Je connais tes défauts et pourtant
je pense à toi tout le temps. Quand l'amour parle en maître, nous n'avons qu'à lui obéir. Il peut tout se permettre. Comme une fleur, il faut le cueillir.
Laï, 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 laï.
Tu me plais, toi, laï, sans tout. Laï, 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 laï. Tu es bavard comme un perroquet.
Mais je laisse à moitié les roquets.
Quand un garçon pour toi est galant, bien vite tu fais la roue comme un pont.
Toi, dès qu'une fille te sourit comme une tomate, alors tu rougis.
Tu es légère comme un papillon.
T'as rien d'une fleur en bouton.
Tu ronronnes comme une chatte sur le toit.
Quand le matou n'est pas toi.
Ainsi que
pirouettes bien souvent. Tu tournes à tous les vents.
Pour me faire tourner la tête, crois-moi, faut être mieux que toi.
Pourquoi nous disputer sans arrêt, puisqu'on va s'aimer après. Quand l'amour parle en maître, nous n'avons qu'à lui obéir. Il peut tout se permettre, comme une fleur, il faut le cueillir.
Laïla, 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 la, tu me laïla, la, la, laïla, 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 la, dis-moi, laïla, 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 laïla.
Bonjour Christian Haas.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. J'ai voulu commencer par ce petit morceau parce que c'est la première fois que je vous ai entendu. C'était sur ce disque, cette réédition d'une opérette de Georges Vamparis.
Oui, oui, oui.
Le Moulin sans souci.
Oui, le Moulin sans souci, oui, effectivement.
Que vous avez enregistré mais que vous n'avez pas créé.
Non. Voilà. Non, c'était Luc Barnet qui avait créé le rôle, je crois.
Voilà. Et là, vous étiez en duo avec Colette Errant. Au fond, c'est grâce à vous que j'ai découvert ce que c'était qu'un fantaisiste d'opérette, parce que c'est un genre finalement très, très typé, très codé. Hein.
Oui, c'est un petit jeune premier, comique,
voilà,
léger, par rapport au premier comique, qui est un homme beaucoup plus rond, beaucoup plus stable, comme était Henri Bédex, par exemple, ou Bardolet, des personnages.
Ah oui, ça. Donc ce sont deux emplois très distincts.
Ah, très différents, oui.
Et le fantaisiste, bien souvent, comme dans ce petit duo qu'on vient d'entendre, il fonctionne en tandem avec une femme, non?
En général, oui.
C'est ça.
Et elle est fantaisiste aussi.
Voilà, femme. C'est ça.
Voilà.
Donc il y a le couple de fantaisiste, le couple d'amoureux plus
voilà,
romantique.
Voilà, exactement, oui.
Et puis le premier comique qui est un autre genre.
Le premier comique a commencé par être fantaisiste aussi, quoi.
Ah oui, c'est avec l'âge qu'il...
Il a mûri. Et... Maintenant, si je jouais encore, je ne jouerais plus les jeunes premiers comiques.
Voilà, bien entendu, d'accord. Donc les fantaisistes, ce sont des jeunes gens aussi, oui, oui.
Je jouerais les premiers comiques, mais je n'ai pas la stature. Il faut quand même un personnage assez rond, qui est exactement l'opposé du jeune premier fantaisiste.
Voilà. Alors merci, parce que là, pour moi, ce sont des précisions passionnantes, Christian Haas. Vu que le métier de l'opérette s'est un peu perdu, vous êtes le représentant d'une époque où il y avait encore des centaines de représentations partout
oui.
en France, et où il y avait encore tous ces emplois
oui, oui.
avec des vrais
c'est
professionnels.
C'est bien dommage, parce que l'opérette est un genre très français.
Oui.
On n'en donne plus. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a une partie comique. Or, ça déplaît à la culture, vous voyez.
Vous pensez?
Alors, et pourtant, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Il n'y a plus rien en France, à Paris, il n'y a plus rien. Ou quand on monte, par exemple, d'après ce que m'a dit Pomarez, avec qui on se téléphone assez souvent, il m'a dit, écoute, je crois que j'ai vu les mousquetaires au couvent, il n'y avait pas de mousquetaires, par exemple.
Oui, ça, c'est une manie aussi, oui.
Briden était...
N'était pas un curé.
C'était un homosexuel.
Ah oui.
Voilà, alors si on veut détruire... Mais on ne peut pas détruire ces opérettes. Des musiciens comme Planquette, comme Lecoq, tout ça, on ne peut pas les détruire.
Non, parce que c'est un répertoire merveilleux.
Moi, j'attends qu'un jour, quelqu'un dise... Ah, ben, on va remonter au Offenbach, on va remonter la vie parisienne. Mais comme on doit la monter, si on veut détruire, c'est très facile, vous savez.
Oui.
Très facile.
Heureusement, il y a des jeunes compagnies qui essayent quand même, avec peu de moyens aujourd'hui.
Ben, j'espère, voilà, je ne suis plus en contact.
Les frivolités parisiennes oui. et d'autres. Eh bien, on va évoquer quelques-unes de ces opérettes ensemble aujourd'hui, Christian Haas. Et je propose, pour commencer, qu'on remonte un petit peu dans vos jeunes années, quand, vous étiez encore, quand vous étiez encore bordelais.
Blanches rondeurs aux contours délicieux, les païens sont un régal pour les yeux. Ils ont tous, malgré leur forme régulière, une physionomie particulière. Les uns lèvent la tête sans se gêner, y en a qui pour garde l'air étonné, d'autres pudiquement baissent le nez. Qu'ils soient monticules ou promontoires, des pommes, des oranges ou des poires, les jolis petits païens, c'est toute la femme. Mais oui, madame, je le soutiens, oh, quel désir quand nos yeux les devinent. Oh, quel plaisir quand nos doigts les lutinent. Ils font bientôt sous notre étreinte des ponts et même des pointes quand on les a dans la main. Mais oui, madame, c'est toute la femme qu'on tient. Homme marié ou bien célibataire, nous courons tous après ces globe-trotters. C'est autour de ces maps mondes si petites que pourtant le monde entier gravite. Désespérés de ces le double jardin, les fétiches dont nous sommes les pantins, éternel néné et race instinct. De l'amour, c'est la vivante cible qui même cachée reste visible. Les jolis petits païens, c'est toute la femme. Mais oui, madame, je le soutiens. Oh, quel désir quand nos yeux les devinent. Oh, quel plaisir quand nos doigts les lutinent. Ils font bientôt sous notre étreinte des ponts et même des pointes quand on les a dans la main. Mais oui, madame, c'est toute la femme qu'on tient.
Urban, le créateur de Fifi, dans un enregistrement très ancien, qui doit vous parler, Christian Haas, parce que c'est un nom que vous avez connu très jeune, Urban.
Oui, mon grand-père avait un trio, et il y avait Urban dans le trio.
C'est extraordinaire.
Ah, oui, oui.
Mais ça veut dire que votre grand-père était artiste de...
Non, pas du tout, c'est artiste amateur.
Artiste amateur.
Oui, oui, il était colleur de papier peint.
Ah oui?
Mais il y avait un trio, dont Urban. J'ai même une photo où ils sont tous les trois. Là.
C'est extraordinaire. Surtout ouais, pour ouais. vous qui aimez beaucoup Fifi, je crois, oh, que j'adore. Vous avez joué par la suite, j'imagine,
oh,
de nombreuses
c'est merveilleux.
Fois.
C'est drôle, c'est bien écrit. Qui est-ce qui a écrit ça? Je ne me souviens plus.
Ah bah Christine et Wilmette.
Wilmette, voilà. J'ai très bien connu André Ornès. Et Ornès, pendant sa captivité, m'avait dit que Wilmette, ils avaient commencé à écrire pour une tragédie.
Oui.
Et puis peu à peu, c'est devenu Fifi.
C'est devenu Fifi. Drôle, hein. Donc cette pièce, évidemment, très célèbre depuis sa création en 1918. Je disais, vous avez grandi, vous, à Bordeaux.
Oui.
Donc avec un grand-père quand même amateur de spectacle.
Oui,
un
certainement.
Père aussi amateur de spectacle.
J'ai pas connu mon grand-père. Mon père, oui, a fait un peu de spectacle aussi, mais toujours pareil. En amateur, quoi.
Et vous, vous avez décidé finalement de vous diriger vers la comédie, le théâtre?
Oui, j'ai eu un chagrin d'amour.
Ah bon? Ça commence comme ça?
Ça commence comme ça, souvent. J'ai dit, à 19 ans, j'ai quitté ma province. Et je suis rentré à Paris, je suis rentré tout de suite au centre de la rue Blanche. Et en même temps, on faisait de la figuration à la Comédie,
française.
Et Jean Meyer, qui dirigeait le centre, m'avait pris sous son aile, si on peut dire. Et j'avais tout de suite des petits rôles, des petits machins comme
mais,
ça.
Mais sans musique, hein, pour, à ce moment-là.
C'était, ah oui,
vous étiez comédien pur.
Oui.
Et donc, vous avez eu votre deuxième prix de comédie, je crois, c'est ça?
Oh, mais vous savez tout. Oui.
Mais ce qui vous interdisait de rentrer vraiment à la Comédie française.
Voilà, il fallait un premier prix.
Il fallait un premier prix. Il n'y avait pas eu de premier prix cette année-là.
Non, mais il était tellement beau ce second prix, c'était formidable. C'est un de mes plus beaux souvenirs, vraiment.
Alors finalement, vous avez commencé à jouer d'abord au théâtre avant de faire de l'opérette.
Oui.
Vous avez joué notamment une pièce de Barillet et Grédy.
Oui, La Reine Blanche.
La Reine Blanche, c'était avec quoi
Belmondo.
La Reine Blanche? Oui. C'était une bonne comédie?
Très bonne comédie.
C'était au théâtre Michel en plus, oui. avec une certaine très vieille dame de la chanson qui s'appelle Parisis.
Exactement.
Elle était comment?
Oui, une petite personnage comme ça, une petite parigote. Quoi.
Oui, c'est ça, une très pure parigote.
Oui.
Voilà, ça c'était donc Barillet et Grédy au Théâtre Michel. Hein.
Oui.
Et puis finalement, c'est un peu par hasard que vous êtes passé de la comédie de boulevard à l'opérette.
À l'opérette, oui, c'est Robert Manuel qui m'a dit « Je monte Mamselle Nitouche ». Il me dit « Écoute, tu vas jouer Loriot dans Mamselle Nitouche ». Et effectivement, avec Carivène, moi j'ai jamais appris à chanter, mais enfin je crois que je chante juste.
Oui.
J'avais le sens de la musique. Donc, j'ai chanté Loriot.
Ça... Avec Marcel Carivène qui vous a fait travailler le rôle.
Oui, oui.
C'était quel genre d'homme, Carivène?
Très sympathique, très sympathique.
On a tellement d'enregistrements de lui, merveilleux.
Oui, oui, très, très sympa. Enfin, c'est pas difficile. Je suis de Saint-Étienne-Loire. C'est pas difficile.
Non, parce que les rôles de fantaisiste, ça suppose d'être comédien plus que chanteur, finalement.
Les deux, malgré tout. Oui. Parce qu'il faut quand même chanter.
Et qu'on vous entende.
Et qu'on m'entende.
Oui.
À ce moment-là, les fosses d'orchestre étaient normales. Maintenant, on les étire terriblement.
C'est très important de le dire, ça.
Oui.
C'est pour ça que l'orchestre couvre souvent les chanteurs.
Ah, ben, obligatoirement. Ou alors, il faut avoir des organes extraordinaires.
C'est vrai que les fosses sont souvent trop grandes, même dans les petits
théâtres. Vous voulez jouer Fifi avec une fosse d'orchestre qui fait je ne sais pas combien de largeur, c'est difficile.
C'est très important de le dire, merci de le faire, Christian Haas. Alors, donc, après Mamselle Nitouche, finalement, vous êtes entré, on peut dire, dans la troupe de la Gaîté Lyrique.
Voilà.
Qui était le grand théâtre de l'opérette à Paris.
J'avais toujours, je doublais Francis Blanche, je doublais Maurice Baquet.
Oui, les rôles de fantaisie, donc
voilà,
justement.
Voilà, tout pareil, quoi.
Alors, la Gaîté Lyrique, c'était un endroit qui marchait très fort à ce moment-là.
Ah oui, très très fort, oui.
Et alors, vous aviez un répertoire qui tournait
Non, il y a eu Les Chevaliers du Ciel avec Mariano. La lune franche est décidée, l'air souriant, le regard droit. Voilà, Les Chevaliers du Ciel.
Bon, mais là, ça, c'est une opérette de 1955. Vous étiez à la création dans le rôle de Magnali.
Voilà. Et après, j'ai pris le rôle de Francis Blanche.
Pour le remplacer dans la durée.
Ah, Francis Blanche. Francis Blanche. Il y avait une scène avec Jean-Paul Thomas. Ils arrivaient dans mon dos, tous les deux. Et je savais que Francis Blanche avait fait quelque chose. Je me retournais et sur son visage, il avait dessiné un mégot. Ah, bon. Alors... Chaque fois, je savais qu'il y avait quelque chose. Et une autre fois, il arrive et je ne vois rien. Il avait simplement fait une petite croix sur son nez. C'est très difficile de parler. Hein. On ne pouvait plus parler parce que lui non plus ne pouvait plus parler. On y était tous les trois. On s'est fait engueuler quand même parce que... Il fallait quand même être sérieux. Il arrivait un moment où il fallait être sérieux.
Alors, c'était donc à la Gaîté Lyrique en 1955, qui était un théâtre municipal parisien, à l'époque, il faut le rappeler.
Oui.
Livret et lyrics de Paul Colline, musique d'Henri Bourterre. J'ai reçu récemment son fils ici même, Jean-Pierre Bourterre. Et puis, la grande vedette du spectacle aussi, qui était Luis Mariano. Vous avez aimé travailler avec Mariano, de Mariano?
Beaucoup. C'était un homme charmant, drôle. Il fallait le faire rire.
Fallait le faire rire.
Il y avait une scène où c'était un radar, un énorme rond comme ça, éclairé, sur scène. Et à un moment donné, pendant une scène où Mariano était là avec un autre acteur, arrivent Francis Blanc et Jean-Paul Thomas, avec un slip simplement et une serviette. Il arrête la scène, Francis Blanche, il dit « La douche, c'est par là !» Déjà, Mariano fait « Ouh !» Et ils s'en vont en coulisses. Et le pire, c'est qu'on les a vus en ombre chinoise, derrière le rideau, comme s'ils prenaient leur douche. Là, ça a été difficile. Hein. Germaine Roger n'était pas contente.
Germaine Roger, il faut le rappeler, c'était la directrice
de la Gaîté Lyrique.
De ce grand théâtre qui évoque encore quelques souvenirs pour certains de nos auditeurs, qui était la Gaîté Lyrique.
La lune franche est décidée, l'air souriant, le regard droit. Voilà les chevaliers du ciel, fiers et courtois dans les tournois comme les tests d'autrefois. Voilà les chevaliers du ciel. De Singapour à l'Alaska et de Panama à Panama, voilà les chevaliers du ciel. Portant l'insigne aux ailes d'or sur la poitrine et sur le bras, voilà les chevaliers du ciel. Du premier maître commandant, s'ils sont si fiers de leur ruban, c'est qu'ils sont su aller gagnant, gagner le cœur en même temps. L'allure franche et décidée, l'air souriant, le regard droit, voilà les chevaliers du ciel. Quand un garçon les aperçoit, il aime dire à haute voix, voilà les chevaliers du ciel. Mais quand parfois c'est une fille, alors en murmurant tout bas, voilà les chevaliers du ciel. Elle rougit baissant les yeux, en sentant bien que son cœur bat, voilà les chevaliers du ciel.
Avant qu'on les entende venir comme des fous, leur vitesse est si grande, ils sont déjà sur vous.
On voudrait quand ils passent courir les embrasser, sur mer ou dans l'espace, ils sont déjà passés.
À mon salon, mais mal occasion, le coup de canon contre le mur du sort.
Une revanche décidée, bien souriant, le regard droit.
Voilà les chevaliers du ciel,
qui avec vous voient dans le tournoi, comme les déesses et l'ombre voit.
Les chevaliers du ciel,
de Singapour à l'Alaska et le Panama à Panama,
voilà les chevaliers du ciel.
Dans l'Asie, nos ailes d'or, sur la poitrine et sur le bras,
voilà les chevaliers du ciel. Du premier maître commandant, s'ils sont si fiers de leur ruban, c'est qu'ils sont su aller gagnant, gagner le cœur en même temps.
La lune blanche est dessinée, l'air souriant, le regard droit,
voilà les chevaliers du ciel.
Quand un garçon les aperçoit, il aime dire à haute voix,
voilà les chevaliers du ciel.
Mais quand parfois c'est une fille, alors la murmure en bas,
voilà les chevaliers du ciel. Elle rougit baissant les yeux, en sentant bien que son cœur bat,
voilà les chevaliers du ciel.
Voilà, c'était il y a 62 ans.
Oh là là. Christian Haas. Dans les chevaliers du ciel, il y a une scène où il y a 5 ou 6 danseuses en scène, en arc de cercle. Alors, il va venir le chevalier, je ne sais pas comment il s'appelait, le chevalier, en fait. Enfin, le lieutenant, je ne sais pas. Oui. Le voilà. Et on voit Mariano qui arrive. Bonjour, mesdemoiselles, comment ça va, tout ça? Il commence à chanter. De tous les pays que j'aime au monde. Il y avait en coulisses son homme de confiance, Patchy.
Oui.
Le plus enchanteur, c'est... Et au premier balcon, on entend un mec qui était bourré. Oh, ben alors, le plus enchanteur, c'est... Bon, écoutez, monsieur, si vous n'aimez pas ça, qu'est-ce que c'est que ces façons d'interrompre ça? Alors, Patchy est parti. On a entendu pam, 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 plus bien. On reprend.
Il s'en passait des choses au cours des représentations à la Gaîté Lyrique.
Non, c'était un type formidable, Mariano. Puis quelle voix et quelle science du chant. Je ne suis pas spécialiste, mais j'en ai entendu quand même.
La Gaîté Lyrique, vous y viviez, donc vous étiez tout le temps dans la
base. Ben, je suis resté pas mal d'années, oui.
Oui, avec ce public très fidèle qui connaissait le répertoire. Et puis ce théâtre, Christian Haas, c'était aussi à la même époque le théâtre où était tournée une émission de télévision dont on a heureusement conservé les archives, qui s'appelait Air de France, et où ont été enregistrées quantité d'opérettes sous la houlette de Henri Spade. Hein.
Exactement, oui.
Comment vous êtes entré dans cette bande et comment vous avez rencontré Henri Spade finalement?
Ça s'est fait tout simplement, je ne sais pas. Comme c'était à la Gaîté Lyrique, il a dû prendre certains acteurs dont je faisais partie avec Henri Bédex. Et on a fait pas mal d'Air de France.
Et c'est ainsi d'ailleurs qu'on peut vous retrouver sur les archives de l'INA. Hein. On vous voit jouer Au pays du soleil, La comtesse Maritza, Le comte de Luxembourg, Une femme par jour, Le jour et la nuit, des quantités d'opérettes qui ont été enregistrées.
Enfin, il y en a pas mal. Hein.
Ça se passait comment? Vous aviez beaucoup de temps pour répéter?
Non, parce que à La joie de vivre de Lucien Barou, Lucien Barou expliquait à Henri Spade qu'il avait fait un bide quand il avait chanté, je sais pas quoi, quand il commençait. Moi, je devais chanter un air que Lucien Barou avait chanté.
Oui.
Mais comme à ce moment-là... J'avais pas de magnétophone, j'avais rien, je prenais tout à l'oreille, j'avais une trouille intense. Je commence à chanter et je m'embarque, mais je m'embarque. Alors j'ai arrêté. J'ai dit à Lucien Barou, écoutez, je suis désolé, mais comme ça n'a pas marché pour vous, vous avez fait une très belle carrière, mais il ne me reste plus qu'à faire comme vous. Je vais essayer de faire une belle carrière.
Puisque je n'ai pas réussi à chanter non plus.
Puisque je n'ai pas réussi à chanter, etc.
Et puis, on vous retrouve aussi donc aux côtés d'Henri Spaat, qui semble vous avoir pris en sympathie à ce moment-là, puisque vous êtes dans plusieurs émissions de La Joie de Vivre.
Oui, La Joie de Vivre aussi, oui.
Voilà, qui était la grande émission des vedettes de l'époque.
Oui, hein. oui.
Vous avez fait, par exemple, La Joie de Vivre de Marcel Marceau. Et peut-être. Puis, vous avez fait La Joie de Vivre de Ninon Valin.
Voilà, Ninon Valin, oui, j'ai fait ça aussi. Mais je ne sais plus ce que je faisais.
Eh bien, vous allez voir tout de suite.
Pardon.
C'est donc Henri Spaat qui présente l'émission. Et puis, c'est Ninon Valin elle-même qui évoque une petite chanson de son enfance, donc au mois de mars 1955.
Je me souviens qu'étant toute petite, un grand-oncle, très joyeux, nous entraînait dans des rondes folles, mon frère, mes sœurs et moi, au refrain d'une chanson de l'époque qui était, mon Dieu... dont le refrain venait toujours. Il ne peut pas lâcher la colonne.
Et qu'est-ce qu'il faisait, ce grand-oncle?
Il était curé.
Dans le village où vous, dans le village où vous étiez né?
Mais oui, non, c'était qu'il venait nous visiter.
Bon.
Il aimait ses enfants, il aimait nous faire rire, il aimait jouer avec nous.
Eh bien, écoutez, cette chanson de votre enfance, de votre petite enfance, nous l'avons retrouvée et
mon
j'ai
Dieu.
Demandé à Christian Haas d'en apprendre quelques couplets pour vous.
Mais de qui est-elle?
Elle est de Bruant.
Sur la place de la Bastille, à travers l'immensité, on voit un monsieur qui brille, c'est le génie de la liberté. Par éclat où il s'embête, il voudrait bien s'envoler ou bien piquer une tête, mais il ne peut pas s'en aller. Et pourquoi? Parce que... Il ne peut pas lâcher la colonne. Il ne peut pas sauter jusqu'en bas. Il ne peut pas lâcher la colonne. Il ne peut pas sauter jusqu'en bas. Quand la nuit étend ses voiles dans les horizons brumeux, à la clarté des étoiles, il regarde les amoureux. On dit que parfois il s'écrie, quand est-ce que viendra mon tour? Mais hélas, jamais de la vie il ne saura ce que c'est l'amour. Et pourquoi? Parce que... Il ne peut pas lâcher la colonne. Il ne peut pas sauter jusqu'en bas. Il ne peut pas lâcher la colonne. Il ne peut pas sauter jusqu'en bas. Plaignons sa mésaventure, car s'il nous fallait rester tout là-haut dans cette posture, nous ne pourrions y résister. Il y a des gens qui ont toutes les veines, mais croyez-vous qu'il en a? Lui qui vient de briser ses chaînes, il est forcé de rester là. Et pourquoi? Parce que il ne peut pas lâcher la colonne. Il ne peut pas sauter jusqu'en bas. Il ne peut pas lâcher la colonne. Il ne peut pas sauter jusqu'en bas.
La joie de vivre de Ninon Valin en mars 1955. Voilà, Christian Haas.
Il avait une petite voix intéressante.
Hein, n'est-ce même. Pas, hein, pour chanter du Bruant. Là, le pianiste est un petit peu à côté dans les accords, mais vous êtes très bien. Voilà, en tout cas, encore ces années 50 où vous avez été très, très actif le métier, Christian Haas, avec les émissions Air de France, les émissions Joie de vivre, les créations de la Gaieté lyrique. Et alors, je voudrais qu'on s'arrête à une autre création importante à laquelle vous avez contribué, ça a été Mini Moustache, l'opérette de Georges Vamparis avec les compagnons de la chanson.
De la chanson, oui.
C'est un bon souvenir pour vous?
Ah oui, très bon, oui. Ils étaient tous... vraiment adorable. Je ne sais pas, il y en a quelques-uns qui ont disparu.
Aujourd'hui, malheureusement, oui. Mais c'était une opérette, alors qui se passait, je crois, aux États-Unis. Hein.
C'est ça, oui. Oui. C'était Ginette Baudin qui avait le rôle principal. Et puis les compagnons.
Avec un livret donc, d'André Ornès que vous avez cité tout à l'heure.
Oui.
Jean Broussol, la musique de Georges Vamparis, quand même.
Georges Vamparis, oui.
Avec aussi un certain Jean Lefebvre qui était dans la distribution.
Oui. Très drôle. Très, très drôle. Tous les deux, on essayait toujours des gags nouveaux. C'était pas facile.
Parce qu'il faut trouver des gags pour les rôles de fantaisiste.
Ben, ça dépend. Ça dépend, oui. Là, il fallait en trouver. Là. Quelquefois, c'est écrit. D'autres fois, il n'y a pas beaucoup de texte. Alors, on essaie de mettre autre chose pour amuser le public. Quoi. C'est très important.
Ça fait partie de cet emploi. Hein. Au fond, c'est presque un rôle qui est entre l'opérette et le musical, rôle de fantaisiste.
Oui, oui. Mais vous savez, quand vous entendez la salle entière qui rit, qui s'amuse, c'était Bernard Blier qui disait « On ne te demande pas d'être heureux, on te demande de rendre le public heureux. »
Ah oui,
ouais, ouais, c'est beau. C'est vrai, ouais. Ouais. Mais en étant heureux, on rend le public heureux aussi.
Hein. Oui. On va retrouver un extrait de Mini Moustache, enregistré par les compagnons de la chanson, à l'époque de la création, donc où vous étiez au Théâtre de la Gaîté en novembre 1956.
À ton tour, un jour tu comprendras que l'amour, aujourd'hui et toujours, c'est de l'or, qu'on découvre un beau soir sans même le savoir, c'est de l'or, et l'amour vaudra tous les trésors, quand viendra le grand jour où les yeux. À votre tour. C'est de l'or qu'on apporte un matin de printemps, quand on frappe à sa porte, impatient, cœur battant. C'est alors qu'on s'embrasse, on en pleure, on en rit. C'est de l'or qu'on enlace en plein cœur de la vie. Tu sauras ce que c'est que la joie et ton cœur frémira de bonheur chaque fois qu'il te regardera et sourira. Il pleuvra des gouttes de chagrin, il pleuvra ces jours-là. Mais d'un tout petit rien, le beau temps renaîtra. C'est de l'or plein les bras, c'est de l'or que tu retrouveras, et plus fort, tu lui pardonneras la joie. C'est de l'or qu'on découvre un matin de printemps, près des volets qui s'ouvrent sur un lit de drap blanc. C'est alors qu'on s'embrasse, on en pleure, on en rit. C'est de l'or qu'on enlace en plein cœur de la vie. Tu verras que l'amour, c'est de l'or, c'est de l'or qu'on découvre au fond d'un cœur, c'est de l'or qu'on découvre au fond.
Mini Moustache, avec les compagnons de la chanson et mon invité Christian Haas, qui était sur scène avec eux, ah et oui. Qui me dit qu'ils étaient vraiment aussi gentils sur scène et dans la vie qu'on pouvait faire à l'époque.
Vraiment. Je suis plus en contact, vous savez, avec les acteurs. Un ou deux peut-être, mais c'est tout. Hein.
Mais c'est les vies de théâtre, c'est un peu comme ça. On se rencontre pour un spectacle et puis on se perd de vue.
Oui, on s'aime. On s'adore, et puis une fois la pièce terminée, chacun part de son côté. Quelquefois, il en reste. Par exemple, Bédex.
Henri Bédex, par exemple. Il faut rappeler qui était Henri Bédex. Hein?
C'était ce qu'on appelait un premier comique, mais c'était un excellent comédien, un très bon chanteur, parce qu'il a eu un prix au conservatoire. Il a été à l'Opéra Comique, même.
Et vous avez été toujours amis, hein? Vous avez toujours, beaucoup travaillé ensemble.
Toujours.
Vous êtes retrouvés.
On se complétait très bien, tous les deux.
Comme vous l'expliquiez au début, le premier comique et le fantaisiste.
Voilà, exactement.
Voilà, ça c'était, oui, effectivement, Henri Bédex. On pourrait citer aussi un compositeur que vous avez chanté à plusieurs reprises et qui était à l'époque encore en pleine activité, c'est Guy Lafarge.
Ah oui, Guy Lafarge, oui. Que c'est une femme par jour, non, c'est pas...
Par exemple, oui, oui, mais oui. Vous avez fait aussi Un chapeau de paille d'Italie.
Ah oui, oui, c'était très bien. C'est une très, très jolie pièce.
Fidèle au texte de la biche.
Ah oui, 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 très intéressant.
Pourquoi, Christian Haas, est-ce qu'en 1958, sauf erreur de ma part, vous avez quitté la Gaîté Lyrique et vous êtes parti notamment à l'ABC, dans une revue avec Henri Jeunesse? Pourquoi vous êtes parti de la Gaîté Lyrique d'abord?
Ben parce que je doublais toujours les premiers rôles, les premiers comiques. Je dis, je ne peux pas faire ça toute ma vie.
Oui, donc Francis Blanc, Jean Lefèvre, voilà. On aurait pu citer encore Maurice Baquet, que vous avez beaucoup doublé. Oui.
Et je dis, si ça continue, je vais passer ma vie à doubler les vedettes.
Ouais.
Et puis alors donc, il s'est trouvé que... Je ne sais pas comment c'est arrivé du reste. J'étais à l'ABC avec Henri Jeunesse, c'est une revue.
Vous en avez gardé quel souvenir de ce spectacle?
Il y avait Saint-Granier.
Ah oui, quand même, le grand Saint-Granier qui était toujours en activité. Oui, oui.
Qui n'aimait pas les chanteurs qui avaient le micro. Il appelait ça le saucisson électrique. Mais c'était très sympathique. Avec Henri Jeunesse, on s'entendait très bien.
Vous chantiez là?
Ben, j'y avais un peu de tout. Je sais qu'à un moment donné, je faisais Cyrano de Bergerac. Après, je faisais un personnage un peu luberlu.
Et puis l'année suivante, donc Christian Haas, vous avez aussi, alors ça c'est quelque chose que beaucoup de mélomanes ont dans leur discothèque, vous avez participé à l'enregistrement de La Péricole sous la direction du grand Igor Markevitch.
Oui.
Oui.
J'avais la trouille parce que je ne connais pas le solfège. Hein.
Oui.
Et alors, il fallait que ce soit à l'accroche. Par moments, il me regardait, il a l'air de dire... Mais enfin, ça a été quand même.
Il faut rappeler que c'est cet enregistrement qui est un de ceux que je préfère, sinon celui que je préfère peut-être, avec Suzanne Lafaille.
Oui, Suzanne, oh, oui, oui.
Qui chantait, vous la connaissiez bien?
Très bien, oui, très bien.
C'était une grande artiste d'opérette. Hein.
Oui, oui, adorable, très gentille, très jolie voix, bonne comédienne, jolie femme. Elle avait tout.
Hein. Elle avait tout. Avec Raymond Amade, avec Louis Noguera, l'orchestre de l'Association des concerts l'amoureux. Et donc, dans les rôles des deux notaires, c'était Christian Haas et Jacques Pruvot.
Oui, oui.
Ne nous remuez pas. Ne nous remuez pas. Ne nous remuez pas.
La Péricole, merveilleuse version d'Igor Markevitch, Christian Haas. Un beau souvenir pour vous, je sens.
Très bon, bien sûr, oui, bien sûr. Mais vous savez que j'ai chanté dans un opéra, j'ai chanté dans La Vie de Bohème.
Ah, vous avez chanté La Bohème aussi?
Mais oui, mon cher, qu'est-ce que vous croyez? Bien sûr.
Mais un rôle, non. Un rôle lyrique.
Enfin, quand même, je peux dire dans ma vie, il y a deux choses extraordinaires. D'abord, j'ai été présenté à Charlie Chaplin.
Ah bah, vous ne m'avez pas expliqué ça, dites-moi.
Ah c'est... oui, Jean Meyer avait monté Les Fourbeaux des Scapins, la comédie française, et je jouais un tout petit rôle à la fin, mais très intéressant. Karl, et on avait présenté ces Fourbeaux des Scapins à Charlie Chaplin, qui était venu à Paris. Tous les acteurs ont été présentés à Charlie Chaplin et sa femme... dans le foyer, et alors il m'a serré la main comme ça. Comme, je ne sais pas dans quoi on dit ça, cette main, je ne la quitterai jamais.
Voilà. Ça, c'est le premier grand souvenir.
Voilà. Et alors, La Vie de Bohème, il y a un rôle qui s'appelle Alcindoro, pas très difficile, mais enfin, je vous avoue que j'avais un peu la trouille quand même.
Bah oui, quand
et
même.
Et puis à la fin, je m'y suis fait, à la fin, ça allait mieux quand même. Ça a été quoi. Je peux dire, dans ma vie, j'ai chanté dans un opéra.
Voilà. Vous avez évidemment surtout chanté beaucoup d'opérettes. Vous savez combien de spectacles vous avez participé, à combien de représentations vous avez été associé dans votre carrière?
Là,
vous avez fait le compte?
Écoutez, je crois que j'ai arrêté il y a 10 ans. Je n'ai pas arrêté, quoi. J'étais sur scène toute ma vie.
Vous avez fait des centaines de productions, on peut dire.
Oui,
hein.
Oui,
et vous avez joué des milliers de fois, probablement.
Je ne sais pas des milliers, mais peut-être...
Parce que donc, après la période de la Gaîté Lyrique, vous avez au fond joué un petit peu au gré des productions, un répertoire très vaste, dans tous les théâtres de France.
Surtout à Avignon et Nancy.
Voilà.
Et là, toujours avec mon ami Bédex, on se retrouvait.
Alors des œuvres comme La Mascotte, Les Brigands, La Vie Parisienne, La Veuve Joyeuse, La Grande Duchesse, La Chauve-Souris, La Fille de Madame Angot, La Chaste Suzanne... Tout ce répertoire encore familier à ce moment-là. Hein.
La Chaste, que c'est joli, que c'est drôle.
La Chaste Suzanne, racontez-nous un peu, c'est une œuvre qui a complètement disparu.
Il y a un rôle qui est extrêmement courtois au début, très pince sans rire. Et au deuxième acte, ça devient un personnage extrêmement truculent et très drôle à faire, très intéressant.
Voilà une œuvre qu'on devrait remonter.
Et puis c'est joli, musicalement, c'est très joli La Chaste.
Vous n'avez pas cité Christian Haas parmi les moments qui vous ont marqué. Alors, vous avez cité Charlie Chaplin et La Vie de Bohème. Vous n'avez pas cité les scènes que vous avez enregistrées en duo avec Fernandel. Dans Ignace notamment, dans le disque d'Ignace.
Peut-être, oui.
Vous êtes avec Fernandel, ça ne vous a pas plus marqué que ça?
Si, ça a été une fois. Quoi.
Oui.
Je sais que ce qui m'a étonné... C'est Fernandel à côté de moi, on disait la scène tous les deux, il m'a regardé, il a fait un jeu de visage, moi j'ai pas pu tenir pourtant, vous savez j'en ai vu dans ma vie, et pour me faire rire c'est difficile. Mais là ça a été extraordinaire, c'était Guy Lafarge qui nous avait fait faire ça je crois.
Ah bon, parce qu'il était aussi producteur, Guy Lafarge,
oui,
il faut
crois,
dire.
Hein.
C'est vrai qu'il a été aussi directeur artistique et pas seulement compositeur.
Je crois bien que c'est lui, oui.
Bah alors, on va vous retrouver tous les deux, Fernandel et vous, dans un extrait d'Ignace, donc produit par Guy Lafarge. Et puis, tout de suite après, on entendra un fameux duo d'Ignace chanté par Fernandel avec Marie Bizet, autre grande fantaisiste. Vous aimiez Marie Bizet?
Oui, j'aime bien, oui. J'aimais bien.
Qui était une grande vedette à l'époque.
Oui, hein, oui.
Complètement oubliée aujourd'hui.
Ah oui,
mais...
aussi, oui. Vous savez, les acteurs, on passe.
Ah, c'est drôle ça, hein, vous savez. Vous faites l'effet, de, comme qui dirait, d'un bout en taille à moineau.
La comparaison n'est guère flatteuse.
Oh, vous savez, moi ce que j'en dis.
Bon, arrivons au fait.
Eh bien voilà, figurez-vous que je suis en mission de confiance, raison majeure, mais secrète.
Ah oui.
Vous hébergez ici Mademoiselle Loulette des Folies Variétés.
J'ai cet honneur, monsieur.
Alors il faut que j'ai le numéro de son appartement pour une personne qui a rendez-vous avec elle, inconnue au trou et qui ne veut pas se faire reconnaître.
Oui, mais...
Il n'y a pas de main. Hein?
Enfin, ma conscience m'oblige...
Tenez-moi la 100 francs pour faire taire votre conscience.
Oh.
Hein? Mais c'est pas moi qui paye, alors...
Du moment que monsieur insiste... Écoutez, voici les indications. Numéro 6, au premier étage. Faut-il que je prévienne madame?
Ah, jamais de la vie, elle le sait. Quant à vous, monsieur le taulier, il faut, comme on dit dans le monde, que vous mettiez les bouts de bois.
Ça ne sera pas long.
Oh, le temps d'introduire le visiteur. Et je vous fais signe.
Parfait.
Merci. Au revoir, taulier. Il est drôle, ce gérant. Hein? Enfin, voilà un grand pas de fait avec ces sacrées femelles. Hein?
Petit chien fou, je veux toujours me pendre à ton cou. Tu m'as éjoté dans la peau, j'en reviens pas, j'en suis marteau.
Marteau, oh, redis-le-me, redis-le-me, mignonne. Oh, redis-le-me. Redis-le-me si tu veux.
T'avoir le soir, espoir nous voir. À toi je m'abandonne.
Oh, 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 redis-le-me, redis-le-me, mignonne. Oh, oh, redis-le-me, redis-le-me si tu veux. Redis-le-me si tu veux.
Comme c'est bien, mais je voudrais que ce soit plus canard.
À la dure de dure, viens ici, môme. T'es ma gonzesse, je suis ton nénesse. Et qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse pour?
Plus clair, c'est pour l'ombert qui vendrait ses pères et mères.
Cracher à 15 pas, moi je ne le crains pas, car je suis un mec, un vrai de bras. Hop, font une gagneuse pour le turbin, ou bien je te fous mes grolles dans le train.
Vilain.
Oh, 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 refile-le-me, refile-le-me ton pèse. Oh, oh, refile-le-me, ou bien je te casse en deux.
Le soir, dans le noir, à boire le trottoir, pour turbiner à l'aise.
Oh, oh, refile-le-me, refile-le-me ton pèse. Oh, allez, 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 refile-le-me. Refile-le-me, moi je le veux. Refile-le-me. Moins de deux.
Fernandel et Marie Bizet en 1936, ça vous plaît apparemment, Christian Haas, le talent incroyable de Fernandel,
oui.
Avec qui donc vous avez enregistré Ignace, et effectivement j'ai vérifié, c'était en 1967, c'était bien Guy Lafarge qui était le directeur artistique,
oui.
Et vous étiez toute une pléiade de comiques et de fantaisistes, puisqu'il y avait votre ami Henri Bédex, Fernandel, Luc Barnet, dont vous nous parliez tout à l'heure, et aussi Robert Piquet, qu'on salue s'il nous écoute.
Oui.
Dans cet enregistrement qu'on trouve toujours dans la collection opérette chez Universal. Alors, Christian Haas, il faut dire aussi que, bon, vous avez donc énormément chanté l'opérette, vous avez quand même continué à avoir quelques aventures purement théâtrales dans ces années 60, notamment, je crois que vous avez beaucoup aimé jouer dans Laurence d'Arabie
oui.
Auprès de Pierre Fresnay.
Pierre Fresnay, oui.
Ah, racontez-nous.
J'ai eu cet honneur, oui, bah écoutez... J'ai été engagé pour jouer un adjudant anglais.
C'est un beau souvenir, donc, cette pièce, Laurence d'Arabie.
C'est un beau souvenir, oui. Ouais. Ça n'avait pas tellement marché. Mais le fait de jouer avec Pierre Fresnay, comme j'avais repris les rôles de Daniel Serrano aussi dans Scapin, Dans le Carthagine, moi.
Et puis, on vous a retrouvé aussi, Christian Haas, dans un spectacle. Alors là, on peut dire aux confins du théâtre et de la musique. C'était à Tours, en 1972, l'Opéra de Katsou.
Ah oui,
où vous chantiez le rôle de Makil Suriner, c'est-à-dire le premier rôle.
Ah oui, c'était formidable.
Comment ça s'était enclenché, cette aventure?
Ben, j'avais été engagé tout bêtement pour jouer Makil. C'est un grand souvenir, c'est une pièce merveilleuse. Le rôle est merveilleux aussi.
On pourrait citer aussi, dans cette même année 72, Il était une fois l'opérette au Palais Royal.
C'est que c'est fou.
Ouais.
C'était
Jean Poiré.
Dominique Tirmont qui avait monté ça avec Dozone.
Oui.
Et Poiré avait écrit les textes et c'était Roger Carrel qui, avec Odette Laure, qui faisait les enchaînements. Mais ça a eu un succès terrible. Ah oui, c'était formidable.
Alors vous jouiez divers morceaux extraits d'opérette.
J'avais pas grand-chose à faire. Ils avaient pris les meilleurs morceaux des opérettes.
J'ai retrouvé aussi dans cette époque, en 1970, un disque qu'on a à la discothèque de Radio France, des Brigands d'Offenbach, que vous aviez tourné à la télévision.
Oui, à la télé, oui. Qu'est-ce que je faisais là-dedans?
Et vous faisiez le premier carabinier.
C'est ça, oui, oui.
Avec effectivement, oui, Dominique Tirmont, André Malabrera aussi, et tout ce petit monde sous la direction de Jean Doussard. On va retrouver justement l'entrée des carabiniers.
Écoutez, écoutez, voyez-vous là-bas, 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 tout près des grottes, reluire des casques d'acier.
Il a raison, j'entends un bruit de bottes,
de bottes,
de bottes. J'entends un bruit de bottes, de bottes, de bottes, de bottes, de bottes. C'est le premier carabinier,
c'est le premier carabinier.
Ce sont les bottes, les bottes, les bottes, les bottes, les bottes, les bottes, les bottes des carabiniers,
les bottes des carabiniers.
J'entends un bruit de bottes, de bottes, de bottes, de bottes, de bottes. C'est le premier carabinier,
c'est le premier carabinier.
Ce sont les bottes, les bottes, les bottes.
S'il faut se battre, me voilà, me voilà.
Halte là, petit, halte là, éteignons tous, faisons silence. Plus tard, nous montrerons du cœur. S'il est un temps pour la valeur,
n'en est qu'un pour la prudence. Silence, silence, silence.
C'est le premier carabinier, c'est le premier carabinier. Ce sont les bottes, les bottes, les bottes, les bottes, les bottes, les bottes, les bottes des carabiniers,
oui, des carabiniers.
Silence,
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 silence.
Voilà, c'est vous qui arrivez trop tard ici, Christian Haas.
La preuve, j'ai plus de 90 ans, c'est un peu tard aussi quand même.
Vous avez plus de 90 ans, mais vous êtes là avec nous ce matin. C'est une joie de vous recevoir.
Ah, écoutez, moi aussi.
Et vous êtes, je le disais, un des derniers à avoir vraiment connu un monde de l'opérette très actif, avec beaucoup de spectacles, beaucoup de comédiens, beaucoup de chanteurs qui en avaient fait leur métier. C'est aujourd'hui bien, bien différent. Mais vous avez connu aussi l'évolution, puisqu'il y a eu de moins en moins de choses à Paris et de plus en plus en province.
Hélas, oui.
Et au fil des années, vous avez joué beaucoup plus dans des villes comme Saint-Étienne, Bordeaux, Tours, Nantes, etc.
Oui, on en donnait beaucoup, surtout à Nancy et à Avignon.
Voilà.
Sous la direction de
Raymond Dufaux, qu'on salue d'ailleurs, qui nous écoute peut-être. Mais il faut dire aussi, Christian Haas, que les années venant, vous avez continué à jouer, à chanter, mais vous avez aussi fait assez régulièrement des mises en scène d'ouvrages que vous aimiez, hein, comme La Belle Hélène à Saint-Étienne, Les Cloches de Corneville à Bordeaux et à Nantes en 75,
oui,
etc.
Je ne me souviens plus exactement, mais j'ai fait quelques mises en scène, oui.
Alors vos mises en scène, vous voulez dire, par rapport à ce que vous nous expliquiez tout à l'heure, qu'elles étaient respectueuses des livrets?
Ah oui, oui, tout en gardant quand même des choses qui pouvaient amuser le public.
Bien sûr.
Les bonnes choses.
Oui. Vous ne cherchiez pas à changer les histoires, les époques, les actions,
non? Non, ça suffit, vous savez.
Oui.
Oh oui, oui, c'est pas la peine de...
Vous pensez qu'il faut...
mettre l'Hélène dans une autre époque, ça peut se faire, peut-être. Le tout, c'est de ne pas détruire la pièce, l'esprit de la pièce.
Exactement. Vous pensez qu'il faut revoir les livrets ou qu'il faut les couper ou qu'il faut les...
Il y a des coupures à faire. Hein. Ouais. Je vois dans Les Cloches, moi j'ai fait
les
quelques
Cloches de Corneville
au début surtout.
Ouais.
Il y a des coupures à faire. Il faut faire attention aux coupures aussi. Il ne faut pas couper pour couper.
Ouais.
Il faut garder quand même le sens de la scène. Mais il y a quelquefois des longueurs.
Donc c'est une adaptation discrète, tout au service de l'œuvre que vous prenez. Vous avez aussi monté d'ailleurs des pièces viennoises, hein, comme Le Pays du Sourire, par exemple, qu'on ne donne plus guère aujourd'hui.
Avec Michel Danse, oui. Avant de chanter « Je t'ai donné mon cœur », il se retourne dos au public et il crache dans ses mains. Et après, il a dû mettre ça sur le dossier. Parce que je crois qu'elle s'appelait Maryse Daubert, qui sort de scène, elle fait « Oh merde, oh le dégueulasse !» Alors j'ai mis mes mains sur... c'est pas possible. Voilà,
c'est... Ah, la vie quotidienne des chanteurs, oui. Hein, c'est pas facile. Et puis,
mais quelle voix. Mais quelle voix.
Quelle voix extraordinaire. Ouais.
C'était une grande, grande chanteuse qui disait « Il arrive le matin, il crache, il mouche, et il chante. » Extraordinaire.
Ça vient tout seul, on a l'impression.
Et il disait que son frère avait une plus belle voix que lui.
Ah bon?
Oui, paraît-il.
Il faut, avant de nous quitter, peut-être aussi qu'on évoque, Christian Haas, alors quelque chose de complètement différent que vous avez fait il y a quelques années avec des musiciens baroques, la Symphonie du Marais de Hugo Reyne, tout un portrait musical de Jean de La Fontaine.
Oui, oui. C'est parce que sans doute, j'ai été pris par les musiciens parce que j'avais monté un spectacle sur des fables de La Fontaine qui marchait très bien, sans musique.
Ouais.
Et là, j'ai été engagé pour...
Par la Symphonie du Marais, Hugo Reyne.
Ouais. Pour... Pas mal du tout. Hein.
Oui, un très joli portrait avec les grands compositeurs de l'époque de Jean de La Fontaine.
Ouais,
et puis vous qui parlez, qui chantez même parfois. On vous retrouve tout de suite dans les merveilleux textes de Jean de La Fontaine.
Tandis qu'il était avocat, il n'a pas fait gain d'un ducat, mais vive le canonicat, alléluia. Il lui rapporte force écus qu'il veut offrir au dieu Bacchus, ou bien en faire des cocus, alléluia. Qu'un ami véritable est une douce chose. Il cherche vos besoins au fond de votre cœur. Il vous épargne la pudeur de les lui découvrir vous-même. Un songe, un rien, tout lui fait peur quand il s'agit de ce qu'il aime.
Tout l'univers.
Tout l'univers.
quelques pages de La Fontaine, dites et chantées par vous-même, Christian Haas, avec la Symphonie du Marais. On peut dire que c'est un de vos derniers disques.
Oui, oui.
Il y a voici quelques années déjà. Mais quand vous étiez venu ici, même dans cette émission, il y a plus de 10 ans, vous étiez encore en activité. Vous avez continué très tard à jouer.
Ah, oui, j'avais 80 ans, je crois.
Mais vous aviez toujours autant de plaisir à monter sur scène.
Ah oui.
Ouais.
Maintenant, d'abord, je ne pourrais pas avec le Parkinson.
Ça vous manque ?
Non, ça ne me manque pas. Ça ne me manque pas parce que, d'abord, j'ai beaucoup de DVD. Chaque fois que je jouais une pièce, j'emportais toujours un magnétophone avec
moi. Ah oui, donc vous avez des archives personnelles.
Ah oui.
Vous les conservez, vous les écoutez, vous y retrouvez des souvenirs et...
Oui, quelquefois, mais rarement quand même, c'est drôle. Hein. Mais quelquefois, je m'amuse, je prends... une femme par jour, où tout d'un coup, je prends un rispad, je dis, ah, ce petit bonhomme, tout brun, avec des cheveux, c'était moi.
C'était moi.
Et alors, quelquefois, je me dis, oh non, j'aurais pas dû faire ça. J'ai voulu faire rire en faisant ça, c'était pas bon. Mais c'est trop tard.
Ah, vous corrigez encore, en tout cas, c'est bien. À 80 ans,
c'est trop tard.
Bah écoutez, merci d'avoir été avec nous ce matin.
Je n'ai pas vu le temps passer. On parle théâtre alors, donc le temps n'existe plus.
Moi, vous savez, c'est la magie des archives, Christian Haas. Il y a quelques jours seulement, j'ai consulté sur le site de l'INA l'émission sur Ninon Valin. Et puis tout d'un coup, qui vois-je apparaître le tout jeune Christian Haas. Je me suis dit vraiment quand même.
Mais il en reste encore, qui sont vivants. Bon. Ça descend peu à peu, mais enfin, il en reste.
On va vous quitter avec toujours un rôle, alors un rôle typique de jeune premier fantaisiste, sauf erreur de ma part, si vous m'avez bien expliqué. C'est dans Rêve de valse que vous avez enregistré à la radio en 1966 sous la direction de Marcel Cariven, qu'on a évoqué voici quelques instants. Et c'est l'occasion donc de vous retrouver dans la vraie tradition de l'opérette que vous avez bien voulu défendre pour nous aujourd'hui. Merci Christian Haas.
C'est un grand plaisir de parler de l'opérette. Qu'on ne voit plus malheureusement à Paris, mais ça peut durer un temps et puis ça reviendra.
Exactement ce que je pense, et ce que beaucoup d'auditeurs espèrent.
Moi de la flûte j'ai le don,
moi j'exécute du violon,
mais cela peut s'accommoder. C'est un problème simplement, garder le même mouvement.
Lorsque l'on va prestissimo, faut pas que l'autre aille adagio.
Piccolo, piccolo,
ti-ti-ti, la frêle, la chambre, la sourdine.
Comprenne le piano, comprenne forte le son, ce qu'il faut c'est l'attaquer à l'unisson.
Piccolo, piccolo, ti-ti-ti, la frêle, la chambre, la sourdine.
Comprenne le piano, comprenne forte le son, faut le prendre à l'unisson. Seul, c'est pas drôle, il vaut mieux
à tour de rôle jouer deux.
Car si beau que soit un solo,
chacun veut faire le duo.
Tout seul, j'aborde déchiffrer. À deux, j'adore opérer de la flûte et du violon. Bien plus de ses exécutions.
Piccolo, piccolo, ti-ti-ti.
Comprenne le piano, comprenne forte le son. Ce qu'il faut, c'est l'attaquer à l'unisson.
Piccolo, piccolo, tin, tin, tin. L'un fait le chant, l'autre la sourdine.
Comprenne le piano, comprenne forte le son. Faut le prendre à l'unisson.
Christian Haas en duo avec Lina Dachary. C'était en 1966, l'orchestre lyrique de l'ERTF, dirigé par Marcel Carven. Et puis donc, Christian Haas, vous pouvez le retrouver sur le site de Lina. Vous pouvez le retrouver en disque dans La Péricole de Markevitch et Amy, ou dans encore Ignace avec Fernandel chez Universal. Et cette émission, vous pouvez, elle, la retrouver sur le site francemusique.fr en allant à la page de l'émission Étonnez-moi Benoît. C'est facile à podcaster.
Thank you.
L'orchestre symphonique d'Odense sous la direction de Peter Guth dans cette valse de la reine Louise, une composition du danois Hans Christian Lumbye qu'on surnomme parfois le Strauss de la Scandinavie.
Benoît Dutertre, Étonnez-moi Benoît, France Musique.
Et je vous l'ai promis, pour finir une petite archive, il y a quelques 15 jours, je vous avais fait écouter Francis Poulenc qui évoquant certains souvenirs. Aujourd'hui, c'est un autre membre du groupe des 6, Arthur Honegger, qui nous parle de son opérette Les Aventures du Roi Pozzol. Honegger adorait l'opérette, mais c'était plutôt un compositeur sérieux, un grand symphoniste, qui s'est lancé dans cette aventure. Il nous explique comment.
Un beau jour, j'ai reçu une demande de Albert Wilmette et de Francis Salabert, s'adressant à moi pour me demander de faire la musique d'une opérette que jusqu'à ce moment-là je n'avais écrit. C'est pas que de la musique symphonique très sérieuse, des oratorios, et je n'étais pas du tout le musicien qui se serait imposé pour un ouvrage de ce genre, mais j'ai accepté naturellement immédiatement et avec grand plaisir, parce que d'abord ça m'amusait énormément d'écrire une opérette et que le sujet était excessivement séduisant. J'ai donc rencontré Wilmette et nous avons jeté les bases de la chose et tout de suite nous avons commencé le travail. Il m'a envoyé les morceaux au fur et à mesure qu'il en écrivait le texte lui-même et nous faisions comme ça la partition. Pour la distribution, c'était tout de même assez difficile de trouver un Pozzol et Wilmette avait d'abord pensé à Paulet. Paulet ne pouvant pas, moi j'avais pensé à Dranem. Wilmette se montrait un petit peu hésitant pour Dranem. Et finalement, il a proposé Dorville. Au nom de Dorville, moi, j'ai été très effrayé, parce que je connaissais Dorville comme un comique de café-concert, un comique de grand musical, et je ne me disais jamais pour aller dans ce cadre. Mais Wilmette était beaucoup plus au courant que moi, n'est-ce pas, de toutes les possibilités des artistes de ces milieux. Et finalement, j'ai cédé et j'ai très bien fait parce que nous avons découvert en Dorville un acteur extraordinaire et vraiment d'une finesse comme il y en a très peu. Vraiment un grand acteur. Il a pris la partition sans aucune espèce de difficulté. Il a chanté les airs et il était très fier. Après, il disait, voyez, moi aussi je chante de la musique moderne.
Avait gardé fidèle une coupe en or ciselée. Regardez, la voilà, c'est elle. Comme on s'en sert souvent, elle est très bosselée. Nul trésor n'avait plus de charme. Il l'adorait et chaque fois qu'il y buvait, même une larme, le peuple criait, le roi boit. Or, un jour que le roi mon père l'avait trop vidé, il a faim, qu'il tomba dans une rivière, ce qui mit de l'eau dans son vin, et cependant sur le rivage, comme il le faisait chaque fois, sans songer à son hôpital, le peuple criait, le roi boit. Hélas, vous devinez le reste, il but tellement qu'il enfla, il enfla tant, je l'atteste. Une heure après, il en creva. Et voilà comme il s'en alla du vin d'ici dans l'eau de l'eau.
Et voilà comme il s'en alla du vin d'ici dans l'eau de l'eau.
Et voilà
d'Orville dans Les aventures du roi Pozzol donnait guerre aux bouffes parisiens. C'était en 1930 et quelques années auparavant, le jeune Arthur Honegger allait applaudir avec enthousiasme les premières opérettes de Maurice Yvain, notamment Ta bouche est là-haut, dont il comparait les finales à ceux de Haydn, rien de moins. Alors pour se quitter, on va écouter le final du deuxième acte de Là-haut, enregistré par la radio en 1963.
Évariste, as-tu fini alors? Il est minuit, mon vieux.
Je ne vous demande pas l'heure qu'il est. Je vous prie de me fiche la paix.
Vous radez vos comptes, il faut qu'on remonte. C'est minuit, minuit, nous sommes cuits, mon vieux. Regardez mon chronomètre.
Il ne faut pas me le mettre.
Qu'est-ce qu'on va se faire passer?
Je vous dis que vous avancez.
J'ai l'heure de l'observatoire.
On croit ça quand on est poivre.
J'ai une montre de précision.
Et moi, à répétition.
Si on est en retard, c'est grave.
Il n'est pas d'heure pour les braves.
Il est minuit, c'est affreux.
Non, il est minuit, minuit deux.
Minuit deux, minuit deux, minuit deux, minuit deux. Vous dites qu'il est minuit deux.
Minuit deux,
minuit deux, minuit deux, minuit deux. Vous dites qu'il est minuit deux.
Et moi, je vous dis que il est pas minuit deux.
Pourquoi criez-vous, messieurs?
Je dis qu'il est minuit deux.
Je vous en prie, arrêtez.
Ça montre arrêté.
Pourquoi ainsi vous montrer?
Parce qu'elle n'était pas remontée.
Répondez à mes questions,
bien vous mêlez pas nos oignons.
Laissez-le parler un peu.
Non, monsieur.
Oui, monsieur. Laissez-le parler un peu.
Non, monsieur.
Si, monsieur. Vous êtes trop minutieux.
Non, monsieur.
Pointilleux.
Non, monsieur.
Chatouilleux.
Effacé.
Laissez-le parler un peu.
Non, monsieur.
Si, monsieur. Laissez-le parler un peu.
Non, monsieur.
Si, monsieur. Vous êtes trop minutieux.
Non, monsieur.
Pointilleux.
Non, monsieur.
Chatouilleux. Je vous en prie, baissez-le.
Non.
Autrement que dira.
Non.
Bonsoir et ta charmante.
Non.
J'ai assez de la vie.
Mes amis, pas tant de bruit, tant de cris, il fait nuit, tout ici est endormi, je parie un louis qu'il est minuit.
Si je fais du bruit et si je crie ainsi la nuit, lorsque tout ici paraît endormi, c'est qu'à mon avis, et je parie au moins de louis, avec vous et lui, sans parti pris, qu'il n'est pas minuit, je le dis.
Eh bien, je vous contredis, car ma montre me dit, en dépit de vos cris et de votre parti pris, qu'on devrait être parti. Comme vous, cela m'ennuie de faire autant de bruit aussi tard dans la nuit. Mais avec vous, avec lui, je parie de 100 louis. Si tout est endormi, qu'il est plus de minuit.
Il nous dit que tout est endormi, c'est faux car tout est endormi, hormis nous trois, mes bons amis.
Oui,
mais si monsieur crie et fait du bruit,
endormi.
En dépit de la nuit, je ferai comme lui.
Minuit.
Moi, je n'aimais pas les montres qui avancent ni les gens.
Mais enfin, voyons,
qui j'ai pas fini. Et paris de 100 louis, c'est inouï, alors qu'il n'en passera dit, uniquement parce que ça m'ennuie qu'il soit déjà plus de minuit.
Eh ben, je vous contredis, car ma montre me dit, en dépit de vos cris et de votre parti pris, qu'on devrait être parti. Comme vous, cela m'ennuie de faire autant de bruit aussi tard dans la nuit. Mais avec vous, avec lui, je parie 200 louis. Si tout est endormi, qu'il est plus de minuit.
Si je fais du bruit et si je crie ainsi la nuit, lorsque tout ici paraît endormi, c'est qu'à mon avis, et je parie au moins de louis, avec vous et lui, sans parti pris, qu'il n'est pas minuit, je le dis.
Mes amis, pas tant de bruit, tant de cris, il fait nuit, tout ici est endormi. Mes amis, pas tant de bruit.
Mais je viens d'y penser depuis que l'on a commencé.
C'est insensé, nous sommes bien avancés.
Il est, j'en suis renversé,
minuit
passé.
Mais je viens d'y penser depuis que l'on a commencé.
C'est insensé, nous sommes bien avancés.
Il est, j'en suis renversé, minuit passé.
Passé,
passé, minuit passé.
Passé,
passé, minuit passé. Minuit passé.
Entends-tu Saint-Pierre qui gronde?
Attends un peu que je lui réponde.
Allons, monsieur Saint-Pierre, rentrez votre tonnerre. À cette pétard, on sait bien qu'on est en retard. Ne criez pas si haut, là-haut. Nous remontons au galop, là-haut. Et quittez ce tambourru, chut, il m'a entendu. Ce bon Saint-Pierre, vois-tu, sais-tu.
Ces gens-là sont des phénomènes.
Dépêchons-nous, je vous emmène.
Pardon si je vous questionne.
Oui.
Où voulez-vous l'emmener?
Oh, ben, se question au paradis.
Oh, laissez-moi partir aussi.
Hein?
Une femme doit suivre son mari partout.
Mais comment pour remonter allons-nous faire?
Cela, c'est mon affaire, vous n'avez qu'à m'imiter. Le vol aérien, regardez bien, cela n'est rien. L'important pour voler, c'est de bien décoller. Mais en décollant, pour que nous prenions de l'élan, prenons, c'est plus prudent, un petit banc. Avec de la volonté, il suffit de contacter ses côtes, les deux points aux côtés. Et puis avec légèreté, il faut tout le temps répéter, je saute, je saute, je saute et vous sautez.
Avec de la volonté, il suffit de contacter ses côtes, ses côtes, les deux points aux côtés.
Le final du deuxième acte de La Haute Mauricie Vin avec Henri Bédex, qu'on a beaucoup évoqué tout à l'heure avec Christian Haas et Médonia, René Lenotti, direction Marcel Cariven, c'était l'orchestre de Radio Lille en 1963. Et bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine pour Étonnez-moi Benoît. J'aurai la joie d'accueillir Gabriel Fumet qui va nous parler de deux personnages extraordinaires. Son grand-père Dinam Victor Fumet, son père Raphaël Fumet, deux compositeurs injustement méconnus. Bon week-end à tous sur France Musique. On se retrouve samedi prochain. Vous avez rendez-vous maintenant avec Philippe Venturini.